Le 14 mai dernier, à l'aube, 80 CRS évacuaient les amphithéâtres du campus Villejean à Rennes à l'issue d'un peu plus d'un mois d'occupation. Comme souvent lors des mouvements étudiants, les yeux se tournent vers Rennes 2 et son « Vive la commune » peint en rouge à l'extérieur du bâtiment B qui sert de décor aux assemblées générales. La Bretagne, une terre de contestation, comme on a déjà pu le dire à plusieurs reprises dans cette émission, qui n'est pas seulement le résultat des mobilisations étudiantes. Ici aussi, les usines s'arrêtent, les agriculteurs sortent dans la rue. Ici aussi, il y a eu mai 68. 50 ans après, revenons aujourd'hui sur ce mois tel qu'il a été vécu dans notre région. Replongeons dans la Bretagne des années 60, celle qui est en mutation, celle qui s'est embrasée à Morlaix en 1961, à Redon en 67 ou dans l'usine Sud Aviation près de Nantes en 68. Que reste-t-il de ces mouvements successifs? Pourquoi l'ouest de la France s'est-il intensément soulevé? Mai 68 a-t-il ou non été un tremplin dans l'histoire de la Bretagne? Les réponses tout de suite dans Chercheurs en ville. Bonjour à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Notre invité aujourd'hui est Christian Boujard, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest et vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à vos côtés, comme tous les mois, Christian Lebar. Bonjour Christian.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Pour la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne, notre partenaire. Colette, c'est à vous.
Christian Boujard, merci de nous avoir accordé cet entretien. Vous avez publié un ouvrage très intéressant et très très bien illustré en tract, en photo, en affiche qui s'appelle « Les années 68 en Bretagne, les mutations d'une société 1962-1981 ». C'est édité aux Presses universitaires de Rennes et ça coûte 39 euros. Beaucoup de villes, d'universités, de mouvements politiques revendiquent la paternité ou la maternité de l'embrasement de mai 68. Mais qui a allumé la mèche ? Une chose est sûre, la première usine occupée de France le fut à Bouguenay, dans la banlieue sud de Nantes. Le 14 mai 1968, les ouvriers de Sud Aviation retiennent leur patron Pierre Duvauchel et ses adjoints, et ils vont le faire pendant 16 jours. 16 jours. Comment en est-on arrivé là? Est-ce que vous pouvez nous camper un peu le décor et brièvement nous dire à quoi ressemblait la Bretagne juste avant les événements?
Alors, avant les événements, la Bretagne a l'image d'une région rurale, maritime, politiquement conservatrice, et on a l'impression que c'est une société un petit peu figée. Du moins, c'est la représentation que l'on en a le plus souvent à l'époque, enfin loin de Bretagne en réalité. En fait, depuis la libération, mais depuis la fin des années 50, les transformations sont en route. Alors, c'est ce qu'on a appelé la révolution silencieuse dans les campagnes. On ne voit pas immédiatement les conséquences, mais le monde agricole bouge fortement avec la nécessité de s'adapter à l'entrée dans le marché commun agricole. On a des phénomènes d'exode rural très très importants, donc une urbanisation en Bretagne aussi considérable, jamais vue jusqu'auparavant. Et aussi, autre problème qui explique, à mon avis, pas mal de mobilisation des années 60, c'est le fait qu'il y a une véritable angoisse, une véritable inquiétude vis-à-vis de l'avenir des jeunes, bien sûr, mais même d'une partie de la population. Et là encore, la perception d'une région abandonnée, sacrifiée, qui ne correspond pas d'ailleurs complètement à la réalité économique, hein. Mais cette perception-là fait que de nombreux types de mobilisations un peu nouvelles se développent dans la région.
Ce sont les Bretons eux-mêmes qui se sentent abandonnés ou c'est l'image que ce que cette région renvoie ?
Alors, c'est une perception très répandue sur le terrain et je dirais dans tous les milieux sociaux, parce que effectivement, pour beaucoup de jeunes et de jeunes diplômés, il n'y a pas suffisamment d'emplois sur place et ils sont obligés de s'expatrier, de partir travailler ailleurs.
Quand vous dites s'expatrier, c'est où ?
Alors, d'une part, il y a ceux qui quittent leur village pour aller s'installer dans les villes de Bretagne. Alors là, je dirais, pour eux, c'est un moindre mal. Mais beaucoup sont quand même contraints de partir travailler en région parisienne, enfin dans les zones industrielles et urbanisées. Et c'est le cas des jeunes diplômés, sans parler des fonctionnaires. Dans pas mal de régions, la solution pour s'en sortir, grâce aussi au développement de l'enseignement secondaire et supérieur, c'est de passer un concours administratif. Et donc, je dirais presque obligatoirement, on est nommé ailleurs, en France. Et ça, c'est un problème. Alors, ça masque quand même des profondes transformations économiques en cours sur lesquelles on pourra peut-être revenir.
Eh bien, allons-y. peut-être Christian avant.
Oui,
Christian Lebar.
On a souvent en tête, quand on parle de mai 68, à partir d'une vision forcément très parisienne, l'opposition entre un mai étudiant qui précède un mai ouvrier, disons ça comme ça. Est-ce que cette temporalité-là, on la retrouve en Bretagne? La remarque de Colette suggérait que c'était un peu plus compliqué.
Alors c'est plus compliqué effectivement, bien sûr il y aura un mai étudiant, mais en réalité il y a un mai social qui a commencé au moins une année auparavant, avec une sorte de conjonction, y compris sur le terrain syndical, entre les luttes paysannes, les luttes rurales qui ont leurs propres revendications liées au problème des prix agricoles qui baissent pendant toute la période, et puis aussi des mobilisations ouvrières, souvent d'ailleurs contre des suppressions d'emplois. Et ça explique aussi cette inquiétude, et ça débouchera sur cette grande journée d'action du 8 mai 68 qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à Paris.
Et racontez-nous alors, le 8 mai 68, dans toute la région.
Disons qu'il faut revenir, je crois, aux mobilisations paysannes de 67, à Redon et surtout à Quimper, le 2 octobre 67, où des rassemblements traditionnels à l'appel de la FNSEA, syndicat agricole conservateur, mais qui en Bretagne, dans certains départements, est pris en main par des gens qui évoluent vers la gauche, il y a des manifestations qui tournent à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Alors d'abord à Redon en juin 67, et puis surtout à Quimper, où, bon, pour caricaturer un petit peu, mais on pourrait dire que les premiers pavés n'ont pas été lancés au quartier latin à Paris, mais à Quimper, le 2 octobre, lorsque, à l'issue de la manifestation, avec la volonté très nette d'en découdre avec les forces de l'ordre, on s'en prend à la préfecture, on commence à dépaver les rues, on brûle quelques voitures et on met à sac la permanence du député UDR gaulliste Marc Beckham. Et ça encore, c'est plusieurs mois avant le quartier latin. Et voilà.
Mais il y a une tradition de lutte violente chez les paysans.
C'est vrai. Alors, il y a une reprise des mobilisations du début des années 60, notamment avec Gourvennec comme leader. Avec aussi, bon, c'est un peu emblématique, et là encore, c'est un peu mythique, c'est la prise de la sous-préfecture de Morlaix. En réalité, ils ont cassé un carreau, ils sont rentrés le matin. C'était des jeunes paysans qui arrivaient d'Algérie, hein, donc ils connaissaient les opérations commando, et très intéressant, et très habile de leur part. Ils avaient convoqué la presse nationale. Donc ça, cette affaire, qui est en soi pas très grave, a une répercussion considérable. Et là, le pouvoir gaulliste, au nom de la fermeté, arrête les leaders, les emprisonne, et immédiatement, j'allais dire comme à chaque fois, la Bretagne s'embrase. Et là, c'est une crise très dure, hein, déjà en 61, il faut les libérer, etc. Alors il y a reprise d'une certaine façon de ces formes d'action, de ces registres d'action en 67 et puis en 68.
Christian.
Ce que tous ces événements suggèrent, d'une certaine façon, c'est aussi un peu ce qu'on pourrait appeler une crise des élites ou des médiations, c'est-à-dire des acteurs et des institutions qui sont supposés faire le lien entre les demandes de la base et puis l'action publique. Or là, alors que la société bretonne était structurée autour de ces institutions, alors qui sont la FNSEA, qui sont l'Église catholique, qui sont les élites politiques, bien sûr, les syndicats, on a l'impression que tout ça ne fonctionne pas. La Bretagne conservatrice se trouve désajustée par rapport à la demande.
Alors, c'est vrai, mais en même temps, les corps intermédiaires sont dans les mobilisations et sont même très actives. Et ça aussi, je crois que c'est intéressant par rapport à d'autres régions françaises. Et en particulier, c'est le rôle du CELIB, qui depuis des années réclame...
CELIB, vous ne redisez.
Alors, le CELIB, le comité de défense, en fait, des intérêts de liaison et de défense des intérêts bretons, qui existe depuis le début des années 50, présidé par René Pleven, hein, qui est une grande personnalité, enfin surtout de la 4e République, qui va revenir sous la 5e. Mais surtout, là, les élites alors patronales, syndicales, politiques, de tous bords, se retrouvent dans ce comité pour exiger de Paris un plan de développement économique. Et là, ils se heurtent clairement à un refus. Refus de réagir à Paris, Debré d'abord, puis Pompidou considère qu'il n'y a pas de raison de faire un cas particulier pour la Bretagne. Et du coup, ces élites-là contribuent aussi aux mobilisations. Le 8 mai 68, tous ces gens-là sont dans la rue. Vous avez énormément de maires de différentes tendances, de gauche bien sûr, mais aussi centristes et certains de droite. Donc il y a une sorte quand même de solidarité régionale. Et alors, autre élément très intéressant, me semble-t-il, c'est que depuis plusieurs mois, il y a eu des rapprochements entre le syndicalisme agricole et surtout les jeunes agriculteurs et le syndicalisme ouvrier, CGT, mais surtout CFDT. Or, les jeunes leaders de ces syndicats agricoles et ouvriers sont passés dans le même creuset. Ils ont été formés dans la JAC. La jeunesse agricole catholique. Et donc, évidemment, il y a des sensibilités qui permettent cette convergence. Et ce qui est étonnant en Bretagne, compte tenu, vous le disiez tout à l'heure, du poids de l'Église catholique, de l'encadrement, mais l'Église est aussi en crise, hein, on va peut-être y revenir. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, ce syndicalisme agricole globalement conservateur accepte une espèce d'alliance de circonstances avec la CGT, qui, je le rappelle, à l'époque, est dirigée quand même par des communistes. Et là, on a quelque chose qui est quand même nouveau.
Ce qui signifie que la matrice Paris-Province, sentiment d'être violentée par la capitale et par le pouvoir gaulliste parisien, est plus fort que la matrice sociale, d'une certaine façon.
Alors oui, ça c'est vrai, et en même temps, d'une certaine façon, ça se conjugue. C'est-à-dire que ces élites traditionnelles, etc., vont être assez rapidement, je dirais, débordées par le mouvement social. C'est-à-dire qu'ils mènent un combat institutionnel qui ne fonctionne pas très bien. Alors là aussi, il faudrait quand même nuancer, parce qu'il y a eu cette politique de décentralisation industrielle. Et alors, je dirais pas la Bretagne, parce que c'est pas vrai pour l'ensemble de la région, mais l'Ille-et-Vilaine et Rennes ont été particulièrement bien servis. Bon, l'arrivée de Citroën, évidemment, à Rennes. Donc l'État a quand même fait des efforts importants. Et là aussi, il faut le dire, c'est dès la fin de la 4e République. C'est-à-dire que beaucoup de décisions ont été prises en 57-58, appliqué par la 5e République, sauf que le pouvoir gaulliste s'est attribué les réussites économiques. Donc il y a ça, il y a des grands projets, il y a le CNET à Lannion,
le plan routier breton.
Alors le plan routier breton, c'est une conséquence de 68.
D'accord.
C'est grâce aux événements, là on y reviendra. Bon, c'est aussi l'usine marémotrice de la Rance. On donne quand même l'image d'une Bretagne qui se veut moderne, et De Gaulle joue là-dessus. D'où d'ailleurs des votes en faveur du gaullisme et du général de Gaulle très supérieurs à la moyenne nationale.
Redon, 2 octobre. C'est en Bretagne que les manifestations paysannes ont été les plus violentes. La Bretagne, qui est une des régions qui ont le plus de difficultés à opérer la grande mutation agricole imposée par notre époque.
Revenez sur les alliances jeunes paysans et mouvements ouvriers.
Oui, alors ça, je crois que ça se trouve sans doute ailleurs, mais c'est particulièrement original en Bretagne. Ça avait commencé au début des années 60 déjà, ponctuellement, notamment en Loire-Atlantique. On ne le sait pas, mais à Nantes, en 64, il y a une mobilisation de 70 000 personnes de tout le département pour défendre l'économie et les industries locales. Il y a déjà des difficultés dans la métallurgie, la navale, etc. C'est tout à fait important. Et dans les mois suivants, les rapprochements se poursuivent. Et il faut citer le nom d'un jeune leader paysan, Bernard Lambert, de Loire-Atlantique, qui avait même été député proche du MRP, enfin donc centriste démocrate chrétien, de Chateaubriand entre 58 et 62, qui évolue vers la gauche. qui adhère au PSU hein, en 66. Et Lambert joue un très grand rôle pour faire bouger les responsables nationaux du CNJA, hein, des Centres nationaux des jeunes indépendants, faire bouger les syndicats agricoles traditionnels. Et ce sont les jeunes qui poussent à la roue et qui, dans un certain nombre de rassemblements, débordent finalement là aussi les leaders traditionnels classiques. Quoi. Et qui poussent aussi, d'une certaine façon, à l'affrontement avec la police. Et aussi parce que l'État réagit, je dirais, violemment, brutalement. Et ça, en Bretagne, on n'aime pas, quoi.
L'État réagit brutalement. Et à Rennes et à Nantes, vous nous rappelez ça au moment des événements ?
Alors, à Rennes, c'est, je dirais, particulièrement calme. Les manifestations se passent dans le plus grand... Il y a juste une manifestation où il y a des agriculteurs le 24 mai, où on balance...
68.
68, oui, bien sûr. Où on balance des bouteilles de lait en plastique sur la préfecture. Enfin, vous voyez, ça va pas très loin. En revanche, Fougères, Redon, des petites villes qui ont des difficultés économiques, avec des mouvements ouvriers assez forts, avec l'arrivée de quelques militants d'extrême gauche. Là, il y a à plusieurs reprises, depuis le début 68, des affrontements, des accrochages violents. Et la ville qui fait un peu penser à Paris, au quartier latin, c'est Nantes.
Oui, bien sûr. Oui.
À deux reprises, il y a des nuits d'émeutes à Nantes, hein, au soir du 13 mai, donc c'est très tôt, et au soir du 24 mai. Barricades, attaques de la préfecture. Et là, il y a un événement quand même considérable qui aurait pu faire basculer les choses. C'est à Nantes, au soir du 13 mai, lorsque le préfet Vier, qui est un dur, est tenté de faire tirer sur les manifestants qui veulent investir sa préfecture. Heureusement, il demande l'autorisation au ministère de l'Intérieur, qui heureusement aussi refuse. Mais vous imaginez, au soir du 13 mai, les événements n'ont pas encore, à part les étudiants, ça n'a pas encore vraiment commencé. S'il y avait eu un bain de sang à Nantes, et là, on est dans les logiques qui se développent depuis quelques jours au quartier latin à Paris.
Alors peut-être, à ce moment-là de l'échange, on peut revenir sur le moment étudiant quand même, et sur le PSU qui fait peut-être un peu le lien aussi entre les différentes... collectifs mobilisés.
Oui, alors, bon, le PSU...
Rappelez-nous, Fondécamp...
Oui.
Le PSU, il a été fondé.
Alors, le PSU, en fait.
Parti Socialiste Unifié.
Voilà. Alors, c'est d'abord le PSA créé en 58-59, notamment par Antoine Mazier, l'ancien député socialiste des Côtes du Nord. Hein. Ça devient le PSU en 70. Alors, il va avoir des élus. Il n'y a pratiquement qu'en Bretagne qu'il a des députés. Il en a deux. Il y aura Le Foll à Saint-Brieuc en 67. Et alors, il y a eu Tanguy Prigent et son successeur à Morlaix en 67 aussi. Alors, l'intérêt du petit PSU, c'est qu'il est créé en fait par des socialistes traditionnels, hein, laïcs, mais il s'ouvre à ce qu'on appelle des cathos de gauche, des catholiques de gauche, et il permet à des gens qui jusque-là étaient dans le centre démocrate chrétien, MRP, ou proche, donc classés à droite si vous voulez, il leur permet d'évoluer à gauche. Et le petit PSU, ils ne sont pas nombreux, mais c'est un vrai laboratoire d'idées et il joue un rôle très actif dans les années 60 et aussi en 68. Et notamment chez les étudiants. L'UNEF, alors au niveau national, avec Jacques Sauvageau, mais aussi à Rennes, est tenu, je dirais, par une majorité d'étudiants socialistes PSU. Alors ça, c'est une chose. Alors sur les étudiants, on a les mêmes phénomènes qu'ailleurs. En France, avec des formes comme aussi de mobilisation assez virulente à Nantes, surtout. Bon, problème d'augmentation massive des effectifs, hein, quasi doublement à Rennes, enfin, pas tout à fait entre 60 et 67-68, hein, 17 000 étudiants à Rennes quand même, déjà, au début des événements. Revendication, enfin, rejet de cette société très autoritaire, et notamment la question des cités U. L'interdiction dans certaines cités pour les garçons d'y accéder, etc. Alors, il y avait eu déjà fin 67...
Dans les cités de filles.
Dans les cités de filles, bien sûr. Mais ensuite, c'est des filles qui viennent occuper les cités de garçons. Enfin, ce qui pose pas problème, hein, je vous rassure. Les portes et les fenêtres sont ouvertes, c'est un problème. Mais ça commence fin 67. Et alors, il y a une journée aussi importante, pour comprendre la radicalisation, notamment à Nantes. C'est le 14 février 68, où là, l'UNEF appelle, le syndicat étudiant national, appelle à une journée d'action sur les cités U, contre les règlements. Là encore à Nantes, alors ça a lieu à Rennes, à Brest, hein, ça dérape. Un certain nombre d'étudiants vont au rectorat, occupent plus ou moins le rectorat, Et donc, il y a une répression. Et ce qui choque les étudiants et qui accélère très rapidement leur politisation, c'est qu'à la sortie, alors qu'ils se retirent calmement, 45 étudiants sont arrêtés sur ordre du préfet, toujours le même. Et là, ils suppriment aussi symboliquement une subvention à l'UNEF. Alors là, c'est le 14 février. Mais quand ça démarre début mai, eh bien, à Nantes notamment, mais aussi à Rennes, dans les facs des lettres, où est Rennes 2 aujourd'hui, eh bien, on commence à avoir des piquets de grève, etc., occupation très vite.
Et alors, quel rôle et quel poids pour les mouvements d'extrême-gauche, mouvement Mao, mouvement trotskiste?
Alors, à ce moment-là, ils sont, je dirais, très minoritaires. C'est une poignée de militants connus par les forces de police. Hein,
l'intérêt mais très actifs.
Des archives, mais très actifs. Alors, à Rennes, on a surtout l'UJCML. Alors, c'est un mouvement maoïste, ce qui a été créé autour de Normale Sup à Paris. Il y a une douzaine de militants, mais ils vont sur les mobilisations ouvrières à Fougères en janvier 68, à Redon en mars 68, et les autorités leur attribuent les incidents qui éclatent à ce moment-là. Il y a une poignée de militants trotskistes, donc de la JCR, Jeunesse Communiste Révolutionnaire. Donc tous ces mouvements vont être dissous le 12 juin 68, mais vont se reconstituer sous d'autres appellations, ou se maintenir dans la clandestinité, comme les maoïstes du ce qu'ils appelaient le Parti communiste marxiste-léniniste de France. Il y avait 2 ou 3 militants à Rennes. Alors, par contre, il y avait un petit noyau réellement ouvrier à Lannion. C'est intéressant quand même. Mais c'est rien du tout. C'est surtout dans le mouvement et après que ces organisations se développent. Et à Nantes, encore une fois, enfin en Loire-Atlantique, originalité, c'est que justement, à la tête de l'UNEF et des organisations étudiantes, on a ce qu'on appellerait des anarcho-situationnistes. Avec ce mouvement, vous savez, créé à très contestataire, créé à Strasbourg, entre autres, et qui sont en liaison avec le syndicat Force Ouvrière, qui dans ce département est dirigé par des anarcho-trotskistes. Notamment Lambertiste et Hébert, et ça jouera un rôle évidemment dans le déclenchement de, enfin évidemment ça se produit comme ça, ça joue un rôle dans le déclenchement de la grève avec occupation de Sud-Aviation dont vous avez parlé.
Georges Vincent, lui, avait 34 ans en mai 68. Secrétaire de la CGT de l'usine, il harangue la foule sur ses images sous la biroute. La biroute désigne les manches à air qui indiquent le sens du vent. Or, le vent était à l'orage depuis longtemps déjà.
En 68, il faut dire que sur les 3000, on était bien 2500 à 2600 à manifester pratiquement tous les jours, depuis le début du mois d'avril. Ça a été le Sud-Aviation Bouvenais qui a commencé, mais ça c'est le hasard. Ce qui n'est pas le hasard, c'est les luttes qui se menaient. Il y avait des luttes à Bouvenais, comme il y en avait un peu partout à ce moment-là. On avait les mêmes problèmes de diminution d'horaires sans compensation, de problèmes de salaire, d'embauche d'ouvriers qu'on n'appelait pas des intérimaires dans ce temps-là.
L'occupation de l'usine serait décidée le 13 mai, 3 jours avant Renault Cléon, sur des revendications très matérielles. Rien de commun avec les slogans étudiants.
Ma question porterait aussi sur les leaders qui se dégagent, parce que voilà, quantitativement, les effectifs sont pas considérables, y compris au PSU. Donc, est-ce que déjà, on peut considérer qu'il y a des non pas des acteurs qui font l'histoire, mais des leaders qui se dégagent et qui font en particulier le lien. Ce qui est très frappant dans ce récit sur la Bretagne, c'est les connexions entre monde ouvrier, monde étudiant, monde sociaux en général. Est-ce qu'il y a des leaders qu'on retrouvera par la suite et qui se dégagent?
Alors, les leaders au PSU, alors c'est surtout les Côtes du Nord et le Finistère, hein, où le parti est très bien implanté. On a, je dirais, entre guillemets, des notables socialistes qui viennent de la vieille SFIO. Bon, c'est le cas de Yves Le Foll, c'est le cas de Tanguy Prigent, c'est le cas de Roger Pratt qui lui succède en 67, donc qui sont des élus un peu traditionnels, mais qui sont pris par cette dynamique-là. Et on voit arriver, surtout à partir de 67 et 68, toute une jeunesse qui adhère au PSU, qui milite au PSU et qui transforme les pratiques politiques qui étaient traditionnelles et qui poussent aux mobilisations. Moi je l'ai observé, j'étais lycéen avec 15 ans, mais à Saint-Brieuc où c'était à des bastions du PSU, et j'avais pas mal de copains au lycée, dont plusieurs venaient d'ailleurs de la mouvance catholique, qui s'engagent à fond et qu'on va retrouver dans les mouvements d'extrême-gauche après. Donc il y a cela, il y a c'est pour ça que c'est un vrai laboratoire. Et du coup, ça provoque un peu des radicalisations. Alors, je parlerai d'un exemple connu à Rennes, mais c'est le fameux docteur Guy Carreau, qui a été conseiller général PSU des Côtes du Nord et qui évolue vers l'extrême gauche, vers les mouvements bretons après. Donc on a cette évolution-là qui est importante. Bon, j'ai parlé de Bernard Lambert qui a adhéré au PSU, mais très important sur le plan syndical à la CFDT. La plupart des leaders départementaux des UD CFDT qui viennent de la mouvance catholique sont adhèrent au PSU déjà, sont PSU en 68 déjà avant. C'est le cas d'André Marivin à Rennes, venu de Fougères. C'est le cas de Jean Le Faucheur qui va animer la grève du juin français en 72 à Saint-Brieuc. C'est le cas de Leblé à Brest, alors qui lui est passé non pas par le PSU, mais par le petit groupe de Mitterrand, de ce qu'on appelle la CIR, la Convention des Institutions Républicaines, et qui va être élu maire de Brest en 77. Et donc, dans le syndicalisme, alors CFDT, vous avez cette mouvance qui est très active, très dynamique et qui va coller aux événements de 68.
Et alors, est-ce qu'on trouve trace de la de revendications régionalistes pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure? Et est-ce que les mouvements régionalistes qui sont assez modestes également à l'époque, est-ce qu'ils montent dans le train des événements ou...
Alors, je dirais deux choses. D'une part, on a un parti régionaliste, l'Union démocratique bretonne, l'UDB, qui s'est créé en 64. Bon, ce sont essentiellement des étudiants, mais qui sont aussi très militants sur le terrain, qui sont sur des positions de gauche, et qui vont d'ailleurs soutenir l'Union de la gauche après 72. Donc, il y a ce courant-là. Mais globalement, en 68 encore... ce qu'on appelle le mouvement breton, le troisième Enzao, est identifié à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on a des descendants, entre guillemets, et même les mêmes acteurs, ils sont en Irlande, réfugiés, Yann Goulet, etc., Fouéré, qui est rentré en Bretagne, qui a été amnistié et rejugé. Donc on a des gens qui se situent clairement à l'extrême droite et qui sont dans la lignée du PNB, collaborationniste sous l'occupation. Donc ça veut dire qu'il y a des sentiments très ambivalents. Il y a des attentats de plus en plus nombreux du FLB en 67-68, hein, dont, c'est un peu cocasse, mais le garage de la caserne de la CRS de Saint-Brieuc est plastiqué 2 ou 3 jours avant le début des événements. Donc tous les partis politiques de gauche, de droite, etc., du centre condamnent ces éléments-là. Et puis on a donc quand même cet activisme qualifié de terroriste qui est rejeté par la grande majorité de ce qu'on appellera les 68ards. Je vous donne un exemple. Je crois que je sais plus si c'est la manifestation du 8 ou du 13 mai à Saint-Brieuc. Il y a quelques types qui se pointent avec un drapeau breton, un guenadu. On leur fait comprendre, le service d'ordre leur dit « Dégagez, parce que sinon ça va mal se passer ». En revanche, dans la foulée de 68, et dans les mouvements sociaux, dans les grèves des années suivantes, là on va voir le drapeau breton arriver partout, notamment au juin français. Et là, il s'est passé quelque chose. L'identité bretonne va se trouver investie par la gauche, et notamment le Parti socialiste, je dirais très intelligemment, soutient, le nouveau PS soutient cette revendication-là, et les extrêmes gauches, quelles qu'elles soient, aussi collent à la revendication régionaliste. Alors ça, c'est un des effets 68, je pense.
Ça, on y reviendra. Et là, sur le front des luttes, on fait une pause musicale. On va écouter le groupe Les Villards qui nous interprète évidemment Bel Avenir.
Sur les mers. le bel avenir dans le ciel.
Bel avenir des Villards à l'instant sur Canal B. Vous êtes toujours à l'écoute de Chercheurs en Ville qui fait aujourd'hui un retour en mai 68. Mai 68 en Bretagne. Dans la première partie de cette émission, nous nous sommes plongés dans la Bretagne des années 60, Bretagne gaulliste, dont certains secteurs ont le sentiment d'être abandonnés. C'est le cas des universités par exemple, qui accueillent de plus en plus d'étudiants. C'est aussi le cas de la paysannerie ou de certaines industries. Et c'est dans ce contexte que la gauche s'est renforcée dans la région. Elle cueillera les fruits de cette implantation lors de scrutins dans les années 70. Vous l'entendrez dans la deuxième partie de cette émission. Une demi-heure durant laquelle on s'intéresse également à la reprise de l'activité après des semaines de grève. Christian Boujard, professeur d'histoire contemporaine et auteur du livre « Les années 68 en Bretagne, mutation d'une société » est notre invité. Il répond aux questions de Colette David et Christian Lebar.
Christian Boujard, revenez s'il vous plaît sur les événements très importants qui se sont passés dans l'Ouest en mai 68, en particulier la journée
du 8 mai.
Voilà.
Oui, alors cette journée du 8 mai 68, elle n'avait rien à voir avec les événements parisiens. Elle avait été décidée et fixée dès le mois de mars, avant même le mouvement du 22 mars à Nanterre. Et l'objectif, c'était « L'Ouest veut vivre », le slogan, c'était de défendre l'économie régionale. Alors ça concernait la région Bretagne et la région Pays de la Loire. Il y a eu des manifestations dans 16 villes. Et les estimations vont entre 70 000 manifestants et 120 000, entre les autorités et la presse. Et là, on voit bien que c'est surtout la Basse-Bretagne qui se sent vraiment abandonnée, qui est la plus mobilisée. Donc, il y a cela. Donc, les syndicats agricoles, paysans, ont appelé la journée. L'UNEF, le syndicat étudiant, y participe. Et donc, encore une fois, c'était programmé. Et cette journée-là se télescope avec les événements parisiens et avec la montée en puissance du mouvement étudiant, puisque dès le 6 mai, en solidarité aux événements de la Sorbonne, à Nantes, à Rennes, un petit peu à Brest, il y a les premiers piquets de grève. La première manifestation descend de Villejean au centre-ville dès le soir du 6 mai à Rennes. Il y a 400-500 étudiants de lettres. Dès le 7 mai, il y a entre 2000 et 4000 étudiants à la fois de sciences, de droit et de lettres qui manifestent à Rennes. Et c'est le début de l'occupation des facultés. Ouais. Alors sur la solidarité avec nos camarades, libérer nos camarades, puisque certains ont été condamnés, évacuer la police de la Sorbonne, etc. Et là, la convergence se fait, si je puis dire, réellement, le 8 mai, tout le monde est dans la rue, des notables aux étudiants, aux petits groupes d'extrême-gauche dont on parlait tout à l'heure. Sauf que le mouvement qui devait s'arrêter au soir du 8 mai se poursuit. Alors, ce qui est l'accélérateur, c'est la nuit des barricades, la première nuit des barricades à Paris, le 10-11 mai. Donc on prépare la grande journée de grève, manifestation du 13 mai 68, en protestation contre la violence policière à Paris qui a choqué l'opinion publique. Ça, on n'imagine pas aujourd'hui. Il faut se souvenir, c'est 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Or, la guerre d'Algérie, à la fin, c'est les ratonnades dans les rues de Paris. Hein, c'est aussi Charonne. 9 morts. Et donc, que des étudiants, entre guillemets, les futures élites de la nation, soient soumis au même traitement, ça choque beaucoup de gens. D'où aussi une large sympathie au départ pour les grévistes, le mouvement.
Ça veut aussi dire que, à travers la radio et déjà un peu la télévision, oui. Il y a une unification nationale du mouvement.
Absolument.
On perd un peu en spécificité.
Voilà. Oui. Là, c'est national. Hein, c'est partout. Très grand mouvement. Et en Bretagne, on constate, là, il y a 25 manifestations. Dans mon livre, il y a la carte. Enfin, il y a les cartes des manifs. 25 manifestations dans la région le 13 mai. Et il y a plus de monde que le 8. Donc c'est quand même, il se passe quelque chose, quoi. Il n'y a pas de doute. Et le préfet de région avait envoyé un rapport au soir du 8 mai au gouvernement en disant il faut faire quelque chose, sinon ça va péter en Bretagne. Donc les autorités sont conscientes, hein. Puisqu'il y a eu les violences de Quimper, on était très très inquiets en 67, on était très inquiets. Et puis là-dessus, le 14 survient, on en a parlé au début, l'occupation, séquestration de Sud Aviation, qui donne le coup d'envoi du plus grand mouvement de grève nationale. 7 à 8 millions de grévistes quand même à la fin mai. Donc en Bretagne comme ailleurs, ça se déroule, je dirais, tranquillement, sauf quelques incidents à Nantes, je l'ai dit. Chaque ville vit à son rythme. Il y a des AG dans les facs. Alors c'est très intéressant, c'est quand même aussi ces contacts entre leaders syndicalistes paysans et ouvriers et étudiants qui viennent dans les facs occupées prendre la parole. Il y a des débats, tout le monde parle avec tout le monde. Et c'était pas joué d'avance.
Est-ce que ça, c'est pas une vision un peu idyllique, tout le monde parle avec tout le monde? Dans votre livre, vous dites bien que quand, par exemple, Daniel Cohn-Bendit vient à Saint-Nazaire, pourquoi Saint-Nazaire? Parce que aussi, bon, c'est une grande ville industrielle et portuaire, etc., mais, et de gauche. Et il vient parce que son frère est aussi dans... enseignant là, mais il se fait pas vraiment très bien recevoir par les gars des chantiers d'Atlantique.
Oui, alors quand je dis pas ceux qui participent au mouvement, c'est là où il y a des échanges. Tous ceux qui ont vécu les événements le disent. La parole s'est réellement libérée, etc. Ce qui n'empêche pas que justement certaines organisations, dont la CGT et le Parti communiste, craignent comme la peste ce qu'ils appellent les gauchistes. Georges Marchais, des Bumet dans l'Humanité, condamne justement les événements parisiens. Et c'est pas un hasard si à Rennes, dès la manif du 7 mai, titre de Ouest France, l'un des slogans, c'est « Nous sommes un groupuscule », parce que Marchais avait dénoncé Cohn-Bendit, etc. Donc il y a bien sûr des tensions. Et les syndicats, et surtout la CGT, veut garder le contrôle du mouvement. Donc ils sont obligés quand même de faire des concessions. C'est vrai qu'au départ, ils isolent dans les manifestations les petits noyaux trotskistes ou maoïstes qui défilent de leur côté et qui veulent aller plus loin à chaque fois dans les manifs, quoi.
Est-ce qu'on a une petite idée de ce qui se discute dans les amphis à l'université? Est-ce que c'est le même agenda que dans les universités parisiennes? Est-ce que déjà on peut anticiper des questions de libération des femmes, des questions de souci du cadre de vie, ou est-ce qu'on est que sur des questions de travail, d'emploi?
Alors, je crois que c'est un petit peu comme partout en France. Effectivement, il y a une remise en question de l'enseignement magistral, de ce qu'on a appelé les mandarins, volonté des étudiants d'être vraiment associés à leur formation. Alors, il y a des débats à peu près sur tout. Alors, évidemment, on n'a pas d'enregistrement, donc on ne peut pas en discuter. Alors, sur la question des femmes, l'impression que j'ai, c'est quand même confirmé par pas mal de travaux de collègues, y compris Michel Perrault, ce n'est pas une question centrale en 68. Ça le devient après. Ce qui ne veut pas dire que les femmes ne participent pas au mouvement, aux grèves, dans les administrations, partout, dans les usines, dans les facultés. Mais ce qui me frappe, c'est quand on regarde qui sont les leaders sur les tribunes.
On voit ça très bien, voilà. Sur vos photos. C'est voilà. Des photos qu'on... Ça fait les vraiment étrange.
Et, voilà. Et dans les femmes ne sont pas présentes.
Que des hommes.
Je me suis amusé.
Que des costumes cravates.
On m'a beaucoup posé la question. Je me suis amusé à faire un calcul. Lors de la journée du fameuse journée du 8 mai, sur les 80 orateurs qu'il y a dans les 16 villes de l'Ouest, j'ai calculé 4 femmes. 5%. Dont d'ailleurs à Rennes, en Ille-et-Vilaine, parce qu'il se trouve qu'exceptionnellement à Rennes, la secrétaire générale de la CGT, Simone Garlavas, était une femme. Donc elle intervient comme oratrice. Mais alors il faut faire aussi attention à une chose. Souvent on plaque des événements ou des évolutions qui sont produites après 68, dans les années suivantes, et qui sont considérables, notamment sur la question des femmes, sur les événements eux-mêmes. Or là, il y a des prises de conscience qui se font, mais ça va très vite et tous les témoignages qu'on a, et on en a beaucoup, nous montrent que ce sont plutôt les mecs qui parlent. Je vous donne un exemple aussi sur Rennes, très intéressant, à la Fac des Lettres. Il y a un comité, donc ça renvoie à votre question, il y a un comité provisoire prof-étudiant qui discute un peu de comment on refait l'université. Chez les profs, 12 personnes, une seule femme, une seule professeure. Chez les mecs, alors ils sont que 10, ça va être complété par 2 personnes encore, quand j'ai vu l'info, 10 mecs. Donc, alors on peut dire chez les femmes, il y a une sous-représentation chez les enseignants, des enseignantes. Bon, là, chez les étudiants, je pense qu'à la Fac des Lettres, déjà à l'époque, il y avait plus de femmes que de garçons. C'est significatif, quoi.
Mais quand les événements, quand mai se termine, accord, gouvernement, syndicat, etc., comment se passe la reprise après toutes ces actions importantes, toutes ces actions collectives? À propos de reprise, peut-être vous connaissez le très beau film de Hervé Leroux qui s'appelle Reprise, paru en 1996 sur le... Il part à partir d'un petit document filmé par des étudiants en cinéma, la reprise des usines Vondère à Saint-Ouen,
oui.
Où on voit cette magnifique ouvrière, une jeune femme brune avec un chignon décoiffé. Et elle est avec devant l'usine avec les responsables syndicaux et elle crie « J'y retournerai pas dans cette tôle, c'est dégueulasse !» Parce que, et politiquement, et humainement, il y a des tôles où les gens n'avaient peut-être pas envie de retourner.
Au départ, c'est une photo dans une revue de cinéma, un photogramme, l'image d'une femme qui crie. Et puis un titre, la reprise du travail aux usines Vondère. Cette femme, reprise du travail, comme on dit, reprise de justice, et ces usines nommées Vondère. Vondère, Vonderland, Alice à l'usine, l'usine en Pays des Merveilles. Le film a été tourné par des étudiants de l'IDEC le 10 juin 68. On y voit les ouvrières de Vondère à Saint-Ouen qui apprennent le travail après 3 semaines de grève. Et cette femme qui reste là et qui crie.
On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, vous le voyez, vous. Premièrement, pour le reste, ils ont fait les saloperies.
Comment ça s'est passé la reprise dans les universités, les usines de l'Ouest?
Alors, la reprise est difficile, je dirais, comme partout. Donc l'homme de la situation, c'est Pompidou, hein, c'est ce qu'on a appelé les accords de Grenelle. Et là, la CGT va faire fortement pression pour reprendre le travail en disant on a obtenu beaucoup. Bon, c'est vrai que le SMIC a été augmenté de 35%. C'est un peu incroyable, hein, avec le recul. Mais effectivement, il y a des minorités qui occupent les entreprises ou qui sont en grève, qui ne veulent pas reprendre, qui veulent plus. Et pas seulement chez Renault-Billancourt à Paris. On voit ça aussi en Bretagne. Alors ça se fait en ordre dispersé, dès la fin du mois de mai 30-31, lorsque Gérald de Gaulle signe la fin de partie en reprenant les choses en main. Ce sera surtout après la Pentecôte, donc dans les premiers jours de juin. Dans beaucoup d'endroits, c'est très difficile. Les ouvriers, les ouvrières se divisent, les salariés, entre ceux qui veulent reprendre, qui en a déjà eu beaucoup, et ceux qui ne veulent pas. Il y a un centre d'affrontement. Je vois à Rennes, hein, au chèque postaux, ça se passe mal. Il y a des gens qui veulent reprendre à tout prix, qui se bagarrent avec les piquets de grève. La police doit intervenir, etc. Et puis, ça va durer, notamment en Loire-Atlantique et dans certaines grandes usines, globalement jusqu'au 10-12 juin. La dernière usine à reprendre, c'est la CSF à Brest, le 21 juin. En Loire-Atlantique, notamment, les métallos veulent pas reprendre. Et donc, voilà, c'est difficile. On voit Sud Aviation. Il y a plusieurs tentatives de vote qui avortent parce que il y a des gens qui s'opposent aux élections, à bulletin secret, etc. Donc, c'est vers le 12-13 juin seulement. À Aubertur, à Rennes, il y a un petit noyau qui veut continuer la lutte et qui veut en faire une sorte de base rouge, hein, pour continuer le combat. Donc, voilà, c'est pas simple. Et puis, il y a le retour, évidemment, de bâton, si je puis dire. Lorsque le général de Gaulle revient de Baden-Baden, annonce qu'il reste, qu'il dissout l'Assemblée, etc., immédiatement, un peu partout, y compris en Bretagne, on voit les comités de défense de la République qui mobilisent leurs troupes et qui descendent dans la rue. Ce qui me frappe, c'est quand j'ai fait la carte, hein, des manifestations du 1er juin, bon, c'est un peu décalé par rapport à Paris, puis je crois qu'il y en aura quelques-unes après, mais sauf à Nantes et sauf à Brest, qui sont des bastions aussi gaullistes, hein, dans la plupart des villes, à Rennes, les partisans du régime ne parviennent pas à s'organiser, à défendre dans la rue. Il y a quelques attroupements, quelques petites bagarres avec des étudiants, etc. Donc c'est difficile. Mais là, je dirais, à partir du moment où le Parti communiste joue le jeu de la légalité républicaine, c'est-à-dire joue le jeu des élections, eh bien les choses sont politiquement terminées d'une certaine façon.
Alors c'est à la fois la fin de mai 68 et puis en même temps c'est le début d'une nouvelle page de l'histoire de la Bretagne. Donc la décennie 70 est extrêmement riche. On a un petit peu évoqué le féminisme, on a un petit peu évoqué le régionalisme. Est-ce qu'il y a une spécificité bretonne de cette décennie-là qui est importante dans l'histoire?
Alors, sans vouloir grossir des choses, je répondrai oui. Parce que ce qu'on a appelé le mai breton se prolonge sur le plan social et étudiant. Mais là, c'est des mouvements nationaux chez les étudiants. Hein. Tous les ans, il y a des grèves avec occupation. Rennes 2 a une longue tradition de ce point de vue-là et Nantes aussi, il y a d'autres facs. Mais ce qu'on peut souligner, c'est que dans beaucoup d'industries où l'exploitation du travail était vraiment terrible, industrie de l'agroalimentaire, etc., où c'était souvent une main-d'œuvre féminine, jeune, parfois plus formée qu'ailleurs, mais voulant à tout prix du travail, hein, vivre et travailler au pays, il y a des mouvements de grève très durs. On voit le processus à peu près partout pareil, c'est souvent dans le monde rural ou semi des petites villes, semi-rural. On voit la formation d'une section CFDT en général qui dépose un cahier de revendication. On a des patrons récents qui veulent rien entendre, qui refusent de négocier, donc grève avec occupation, comité de soutien. Et là, on a des grèves, je vois dans les Côtes du Nord, les Kaolin de Plémé, à Saint-Caroc, etc., qui peuvent durer un mois, six semaines, et puis le juin français, à Saint-Brieuc. Et c'est très intéressant parce que, d'une part, il y a une solidarité régionale, financière, etc., des grandes manifestations de soutien, et il y a ces comités de soutien qui permettent aux syndicats et aux grévistes de tenir. Et puis tout ça débouchera dans la deuxième moitié des années 70 sur d'autres types de luttes, d'autres registres d'action, de type, on va dire, écologiste, même s'il n'y a pas encore vraiment d'écologie politique structurée, enfin en tant que force politique à l'époque, véritablement, de deux manières. D'une part, la lutte contre les constructions de centrales nucléaires. Le Pèlerin, près de Nantes. Alors, il y a Erdeven, il y a une centrale mobile là, qui se balade dans plein d'endroits du Finistère et qui devait aboutir à Plogoff. Et là, toute la population, la région et au-delà se mobilise contre. Et puis, il y a aussi le choc des marées noires. Et là aussi, ça provoque politiquement des choses.
Le Torrey Canyon en 67, l'Olympic Bravery et le Bolen en 76, la Mogo Cadiz en 78, le Gino en 79 et le Tanio en 80. Il y avait de quoi alimenter effectivement la colère et les modes d'action.
Oui, tout à fait. Et là, on observe une sorte de glissement, je dirais, des luttes sociales vers des luttes environnementales. Alors, c'est lié aussi au contexte socio-économique, c'est-à-dire qu'à partir de 1974-1975, on entre dans la crise. Et désormais, les grèves sont des grèves défensives contre les licenciements ou des fermetures d'entreprises. On a en Bretagne, ce sont d'entreprises pirates qui sont venues s'installer pour avoir des subventions. Et puis, dès que ça marche plus très très bien, elles s'en vont, elles mettent la clé sous la porte. Donc, on a ce phénomène-là. Mais néanmoins, il y a et une partie de la jeunesse militante, et notamment étudiante, encore plus nombreuse, va s'investir dans ces combats de type nouveau. Et à mon avis, tout cela converge, ça nous amène, je dirais, un peu à 80, enfin, 77, poussée très forte de l'Union de la gauche au municipal, à Rennes, à Brest, à Nantes, et puis même dans plein de petites villes. Ouais. Les Côtes du Nord, le conseil général a basculé à gauche en 76, et donc Josselin avait battu Pleven en 73. Donc on a tout ça, il y a plein de symboles. Bon, les droites et le centre, à mon avis, ne se renouvellent pas. N'arrive pas à trouver de nouveaux leaders. Il y a peut-être Pierre Méhenry en Ille-et-Vilaine, mais il y a quand même un vieillissement. Et justement, c'est le nouveau Parti Socialiste, l'Union de la Gauche, qui capte ces aspirations au changement. Et c'est ce qui explique la poussée à gauche en 81.
Oui, on a quand même une singularité électorale à l'échelle nationale que du coup on comprend mieux en vous écoutant. La Bretagne, bastion conservateur avant 68 devient un bastion socialiste en très très peu de temps. Enfin, ça prend quelques années quand même, mais donc tout ça est lié à mai 68.
Absolument. Alors, à mai 68 et aux transformations, disons qu'il y avait un survote gaulliste dans les années 60 de l'ordre de 5%, à peu près, de 5 points. Et après, dans les années 80, et ça va se confirmer jusqu'à 2017, maintenant je ne sais pas ce qui se passera après, il y a eu un survote socialiste. Et ce glissement, alors c'est aussi, alors il faudrait creuser les choses, mais c'est cette idée qu'à son de catholique, alors que l'Église catholique connaît une crise très profonde, et que désormais les leaders, au lieu de s'investir dans le combat spirituel, s'investissent dans le temporel, on voit bien que la plus grande partie des leaders syndicalistes, et notamment étudiants, et je dirais des partis d'extrême-gauche en Bretagne, il faudrait vérifier si c'est pareil ailleurs, viennent des mouvements d'action catholique. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait important, évolue vers l'extrême-gauche au départ, puis souvent vers la gauche, le PS, etc. après, quoi.
Et ça, c'est assez original à l'échelle nationale.
Absolument. Absolument, je crois que c'est original, et d'où l'intérêt, je crois, d'une étude de type régional, sans être localiste. Enfin, je crois que dans mon livre, j'essaie quand même de mettre les choses en relation avec le national, voire l'international. Mais on a un observatoire, on a un terrain propre avec son identité, c'est ça aussi. Il y a une vraie identité régionale qui montre que là, on a des mouvements de fond, des mutations considérables.
Après une campagne sans grande passion, les Rennais ont quand même été surpris, sinon de voir l'opposition en tête, au moins de l'avance dont elle dispose. La gauche et l'extrême-gauche totalisent plus de 57% des suffrages, et à moins d'un tour de force, on imagine mal Jean-Pierre Chaudet faisant encore obstacle à l'entrée d'Edmond Hervé dimanche à la mairie.
Alors, on a envie de dire que s'ouvre à cette occasion une nouvelle page de l'histoire de la Bretagne qui de l'après 68, enfin, qui est la période d'hégémonie du PS sur le... Et qui est aussi une période de forte croissance de l'économie, enfin, qui est une période de prospérité, qui est aussi la période de la régionalisation institutionnelle. Est-ce que cette page-là ne s'est pas elle-même tournée plus récemment? On pense au bonnet rouge, évidemment, à travers la crise de l'agroalimentaire et à travers aussi le déclin voire l'effondrement du PS. Enfin, c'est une question très ouverte, mais
oui, bien sûr, mais qu'on ne peut pas ne pas se poser. Ouais. Non, je crois qu'effectivement, ce qu'on a appelé le modèle breton sur le plan agricole, il a atteint ses limites. Cette agriculture productiviste est aussi polluante, il faut le dire. Aujourd'hui, elle est fortement remise en question. Donc, ça a des incidences sur toutes les industries agroalimentaires qui sont fortement créatrices d'emplois. Le modèle industriel aussi, avec les grandes usines décentralisées, c'est terminé. Donc là, la Bretagne, comme d'autres régions, est aussi à une croisée de chemin. Bon, il y a eu un livre il y a quelques années, notamment avec André L'Espagnol et d'autres, qui ont vraiment posé la question du devenir, de l'adaptation à cette Bretagne dans le cadre de la mondialisation. Et politiquement, oui, apparemment 2017. Alors, est-ce que c'est un tournant ? Il faudra voir.
C'est aussi l'effacement d'une génération qui est la génération de 68.
Voilà. Alors, il y a aussi le fait, il y a l'usure du pouvoir. Il y a, du point de vue du Parti socialiste, moi je vois cela comme cela, il y a aussi cette reproduction qui fait que les collaborateurs d'élus deviennent élus à leur tour, etc. On a un monde qui se ferme sur lui-même, même si c'est moins vrai en Bretagne que dans d'autres régions. Enfin, c'est quand même très très net. Et du coup, ça provoque une certaine sclérose. Et là, le système a été, semble-t-il, dynamité en 2017. Maintenant, reste à voir si c'est un mouvement de fond. Si c'est l'ouverture d'un nouveau cycle politique ou si c'est pas, entre guillemets, une sorte d'accident. Bon, là, évidemment, l'historien ne se prononcera pas sur l'avenir.
Il nous reste hélas peu de temps, mais sur le plan social et syndical et aussi le plan des idées, des manières de penser et d'agir, les traces de 68, comment vous les voyez, ou pas d'ailleurs, dans les grands mouvements sociaux actuels, dans différentes entreprises en Bretagne, mais aussi bien sûr dans les universités. On est en plein dans...
Alors, je crois que c'est difficile de répondre à votre question. Bon, il y a un impact, certainement, et encore plus cette année où il y a cette commémoration et où les médias parlent énormément des événements. Il me semble qu'il y a eu quand même des mutations aussi profondes dans les formes de lutte. Moi, j'en, j'en, voudrais pour preuve, alors déjà l'émergence de nouvelles forces politiques d'extrême gauche ou d'ultra gauche qu'on ne connaissait pas. Les extrêmes gauches classiques, bon, certaines, les maoïstes ont disparu, il reste encore des petits noyaux militants trotskistes, héritiers directement de 68. Mais on voit bien que ces forces de type anarchiste se sont développées depuis quelques années déjà, et c'est le recours à des méthodes violentes qu'on ne connaissait pas, au moins en Bretagne, en 68. On voit ça à Nantes, à Brest, cette volonté de casser des choses, ce qui, me semble-t-il, choque quand même les héritiers, les porteurs de 68. Parce que c'était quand même si on parlait de révolution, même si on rêvait d'un tas de choses, c'était, me semble-t-il, c'était pas exactement de la même manière. Donc là, il y a un durcissement, incontestablement, de la société. Et ça se traduit dans les mouvements sociaux, les luttes étudiantes. Je dirais le fait que des minorités bloquent, occupent, etc., c'est classique, hein, dans les années 70, dans chaque grève à Rennes 2 ou ailleurs, c'est déjà comme ça. Hein, sauf que là, on a affaire à des méthodes, me semble-t-il, plus violentes qu'auparavant. Mais je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas sur le terrain, je ne suis plus à l'université en prise, donc
on a
je
ne voudrais pas... Dans de dernières actions, particulièrement chez les étudiants, ils mettent dehors les journalistes et la presse. C'était pas le cas en 68.
Alors je ne crois pas. Je crois qu'il y a eu. On rejetait les médias officiels. Clairement, l'ORTF, les radios, etc. Et c'est les radios périphériques privées qui ont joué un rôle majeur, notamment à Paris, hein, dans les événements. Mais il y avait une demande quand même de contact avec notamment la presse écrite. Je crois qu'il y avait une certaine empathie. Il suffit de lire aujourd'hui Ouest France ou le Télégramme de l'époque, y compris dans les années 70. Parce que c'était un moyen de faire connaître sa lutte, donc avec les journalistes, je dirais. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je dirais à la limite, entre guillemets, hein, on peut se passer des journalistes. Et il y a effectivement cette idée, mais elle était déjà en 68, hein, de les profs, les journalistes, chiens de garde de la bourgeoisie. C'était quand même des slogans. Mais il me semble que c'est plus des slogans que des pratiques. Alors aujourd'hui, c'est peut-être moins des slogans, mais c'est des formes de lutte, des formes d'action dont on peut discuter, mais dont on constate l'existence, quoi. Et ça, à mon avis, ça traduit une vraie radicalisation de petite minorité dans nos sociétés, ce qui veut dire que les élites politiques, les pouvoirs successifs de droite et de gauche n'ont sans doute pas répondu à son aspiration. Mais ça, c'est mon point de vue. Hein.
On termine, hélas, sur cette note. Christian Bougère, merci infiniment. Merci à Ronan Lemouer, notre réalisateur. Prochaine émission de Chercheurs en Ville, en juillet.